un cycle de conférences sur un sujet que je connais un peu, sur lequel j'ai quand même travaillé depuis de nombreuses années, et eu égard à l'actualité de... Ça va mieux ? Et eu égard à l'actualité, eh bien je me suis empressé évidemment de répondre avec joie à son invitation. Vous avez pu remarquer, en lisant le tract ou l'affiche, qu'il s'agit d'un cycle. Il y aura donc trois séances. Trois séances où nous allons mettre en regard les origines du christianisme dans l'Empire romain et qui nous renvoient à des périodes de forte persécution. Mais, comme l'a dit Tertullien, dès le IIe siècle, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Et en regard de ces origines qui nous ont enfantés, qui ont créé la grande chrétienté, à l'époque unie d'Orient et d'Occident, eh bien, en regard de ça, nous allons pouvoir mettre cette chose étrange que nous vivons et qui interroge l'historien catholique que je suis, c'est que nous revivons des moments semblables, une violence de même nature, même si les moyens à travers lesquels elles s'expriment sont un peu différents, mais surtout, ce qui est grave, et c'est pour ça que ces trois conférences voudraient vous faire prendre conscience de ce que les historiens appellent le temps long. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est produit dans les premiers siècles se produit en ce début de 21e siècle, mais parce que nous sommes devenus apostats. J'insiste sur le mot, l'Occident chrétien, géographique et géopolitique est devenu apostat. Nous avons été chrétiens, nous appartenons à des peuples qui l'ont été, nous avons une histoire chrétienne, nous avons des aïeux chrétiens, et aujourd'hui, l'Occident est apostat. C'est un grand mystère. Mais la considération du temps long de l'histoire nous aidera sans doute à comprendre ce mystère. Car derrière tout ça, il y a un mystère, c'est que l'histoire a un sens. Je ne parle certes pas du sens marxiste de l'histoire, mais je parle du sens de l'histoire chrétienne, c'est-à-dire avec sa vision eschatologique, c'est-à-dire que tout ce que nous vivons, tout ce que les générations qui se sont succédées les unes après les autres ont vécu, se dirige vers cette phase finale que saint Paul résume admirablement lorsque Dieu sera tout en tous. C'est ça le sens de l'histoire. Et ce sens de l'histoire, aujourd'hui, il est ignoré dans les nations chrétiennes qui ont enfanté ces concepts. C'est pour ça que la considération du temps long sera très importante. Alors nous procéderons bien sûr par étapes. Ce soir, nous allons aborder essentiellement, le programme était ambitieux, je n'irai pas jusqu'à Théodose ce soir, je vous réserve pour la prochaine fois, avec Clovis. Non, je voudrais vous montrer, et c'est extrêmement riche d'enseignements pour nous, surtout pour regonfler les batteries, pour conserver l'espérance, n'est-ce pas ? Parce que l'histoire de l'Église, ça commence mal. Un vendredi, veille de sabbat, on crucifie un personnage rejeté par les Juifs, ignoré de tous, et qui a pour disciples 12 disciples, principaux, les apôtres, parmi lesquels une majorité de simples pêcheurs de poissons, dépités, découragés, désespérés, je ne sais, mais jusqu'au matin de Pâques, l'espérance a quand même disparu, sauf bien sûr dans le cœur de la Vierge Marie, la très sainte Mère de Dieu. Et ce sont ces hommes qui, transfigurés par la grâce du Saint-Esprit, au lendemain de la Pentecôte, vont partir à la conquête de l'écouménée, c'est-à-dire du monde connu. Bien sûr, nous pensons à l'Empire romain, mais n'oublions pas, j'en dirai ici ou là, il ferait allusion ici ou là, mais aussi beaucoup plus loin, vers l'Est, vers l'Asie. Ne dit-on pas que Saint Barthélemy est allé jusqu'en Inde, qu'il a évangélisé l'Inde. Donc, eux qui vont subir des persécutions, qui vont subir le martyre, pourquoi subissent-ils le martyre? Pour une seule raison, témoigner de leur foi au Christ et de sa résurrection. Les deux éléments essentiels qui vont bouleverser l'histoire de l'humanité sont un, l'incarnation du Fils de Dieu dans une crèche, le roi des rois au milieu, naissant au milieu des bergers et des animaux. C'est l'irruption de Dieu dans l'histoire. Et puis, la résurrection. Le tombeau vide témoigne de la présence du Christ ressuscité. Les orientaux, d'ailleurs, n'appellent pas du tout le tombeau du Christ le Saint-Sépulcre. Ça, ce sont les latins un peu doloristes. Non, on l'appelle en grec « anastasis », c'est-à-dire « résurrection ». Le lieu de la lumière et le lieu de la gloire. Eh bien, les martyrs, les apôtres et leurs disciples, et puis ceux qui vont suivre cet enseignement après avoir été baptisés, vont mourir pour témoigner de cette résurrection et de cette gloire divine. Et les martyrs d'aujourd'hui, nous en parlerons au mois de décembre, s'il plaît à Dieu, je vous donnerai des témoignages. J'ai des amis prêtres, évêques, en Syrie, au Liban. Je vous parlerai de ce qu'ils vivent en ce moment. Mais il y a une chose, nous sommes pessimistes. Nous appuyons le matin sur un bouton de radio et tout de suite nous sommes dégoûtés, nous sommes désespérés. Eh bien, eux sont joyeux, non pas de cette joie naïve, idiote, une joie profonde. Pourquoi ? Parce que le Christ est ressuscité et qu'il témoigne de cette foi. Et récemment encore, un ami évêque dans un diocèse du sud de la Syrie, qui est venu faire un petit séjour en France, nous disait, une église qui a des martyrs, c'est une église en bonne santé. Quand nous sommes persécutés, Dieu vit. On avait oublié la dernière partie des béatitudes. Le Maître nous avait annoncé. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera autour de moi. Manifestement, nous avons du mal avec cette phrase. Mais rassurez-vous, moi comme vous, je ne suis pas en train de vous donner une leçon. Alors, nous allons voir comment le christianisme va pénétrer à partir... Alors, on ne va pas raconter les premiers siècles de l'Église, parce que ce serait trop long et ça susciterait à soi-même tout un cycle. Nous allons commencer à voir lorsque la société païenne va commencer à être au contact de cette pensée chrétienne qui a germé doucement, tranquillement, en Orient et qui va arriver petit à petit jusqu'à Rome. Alors, nous allons considérer la fin du IIIe siècle, la seconde moitié du IIIe siècle, c'est-à-dire à partir de 250 à peu près, pour bien comprendre ce que furent le premier contexte. Dans quel contexte cette foi chrétienne va-t-elle s'imposer? Alors, il faut dire qu'au cours des deuxième, au début du troisième siècle, l'Empire romain avait connu une période de félicité, ce qu'on appelle la paix romaine, telle qu'on n'avait pas connue auparavant. Mais entre 235 et 285, une crise sans précédent faillit la faire sombrer. D'une part, il y a les attaques germaniques en Occident et les menaces de l'Empire perse en Orient. Crise militaire, crise politique et institutionnelle. Les empereurs eux-mêmes sont déstabilisés. Cette puissante et riche société de l'Empire romain est déstabilisée. Dans les provinces occidentales, c'est-à-dire cette partie dans laquelle nous habitons, n'est-ce pas, eh bien, le danger est venu des Germains lorsqu'ils passèrent le Limes, c'est-à-dire la frontière du Rhin et bien celle du Danube. D'où viennent-ils? On ne va pas faire une ethnogénèse détaillée des peuples qui vont envahir l'Occident, mais il y a tout d'abord les Goths qui viennent des bords de la Baltique et puis qui petit à petit vont se rapprocher du Caucase et ensuite vont rentrer par les Balkans, marcher sur Rome, s'installer ici à Toulouse par le Fédus, c'est-à-dire contrat d'association consenti par le pouvoir romain vis-à-vis de ces peuples-là comme armée fédérée, et le Fédus de Toulouse est très connu, c'est celui de 418. Et ils vont remonter, grosso modo, ces Goths jusqu'à Poitiers, où Clovis les délogera au VIe siècle, en 511, il les poursuivra jusqu'à Toulouse et même un peu au-delà, et ils se réfugieront, comme vous le savez, en Espagne. Il y a ensuite les Burgondes, il y a les Vandales, et il y a aussi ce petit peuple qui est appelé à un grand destin, qui lui vient plutôt de la Norvège et de la Suède, de ces zones-là en tout cas. Je vous tresse là un tableau à grands traits, parce que cela nécessiterait quand même quelques précisions supplémentaires, mais d'une érudition qui ne vous serait sans doute pas utile ce soir, n'est-ce pas? Et il y a ces fameux francs, il y a ces francs qui sont, comme vous le savez, destinés à prendre une importance considérable dans l'histoire. Alors, face à ces envahisseurs, évidemment, il s'est passé ce qui se passe toujours dans cette circonstance. Le désarroi s'est emparé des populations. Tous ces territoires, comme la Gaule à l'époque ne comprend pas que notre hexagone. On parle des Gaules, c'est la Belgique, c'est une partie de l'Allemagne, c'est une partie aussi de l'Europe centrale d'aujourd'hui. L'Espagne, la Grande-Bretagne. Et donc ces peuples qui ont été conquis par Rome et qui se sont très bien accommodés en réalité de Rome, eh bien les voilà pris dans un vent de panique. Et jusqu'à maintenant, Rome avait su protéger tous les peuples qu'elle s'était attachée. Certains diraient asservis. Peu importe. Il n'y avait qu'une seule exception. Une seule exception, ce fut le cas d'Israël qui se révolta deux fois contre l'occupant. Alors vous savez, la première c'était 66 à 70, qui se termina par la prise de Jérusalem et la destruction du temple, et la seconde de 132 à 135, où Jérusalem fut purement et simplement rasée et à l'emplacement du tombeau du Golgotha, de ce lieu où le Christ était mort, on édifia un temple à Jupiter capitolin. Mais c'est le seul peuple qui se soit réellement révolté. Donc, les peuples d'Occident, comme d'Orient, parce qu'il y a, n'oublions pas les Perses, se trouvent désarçonnés, inquiets et ne comprenant pas. Donc, on aura compris, la première partie du IIIe siècle avait été une période de paix réelle, même si elle restait, ne nous aveuglons tout de même pas, souvent précaire, voire menacée. Mais lorsqu'il y a des troubles de cette nature, il faut toujours des responsables. Vous vous souvenez que Néron avait rendu responsable l'incendie de Rome, avait rendu les chrétiens, responsables de l'incendie de Rome. Eh bien là, la chose va recommencer. On va prêter aux chrétiens la responsabilité de ces barbares. Alors barbares, de grâce, je le répète souvent, enfin tous les historiens de cette époque le répètent à satiété, mais de grâce, à côté de barbares, ne mettez pas ignorant ou moins que rien. Un peuple barbare est un peuple qui n'appartient pas à la romanité, c'est tout. Mais il y avait des peuples barbares, je pense au moins, par exemple, qui avaient une science en matière d'orfèvrerie absolument insensée et incroyable. Alors, évidemment, le pouvoir, vous savez, ça c'est de toutes les époques, le pouvoir ne peut pas perdre la face, ou en tout cas, ne veut pas perdre la face, ne se trompe jamais. C'est aussi vrai, si c'est vrai aujourd'hui, sans allusion excessive, je me demanderai là, et dites-vous bien qu'au début du IIIe siècle, c'était la même chose. Et donc, on a l'intérêt, d'ailleurs le premier des empereurs illyriens, l'Illyrie correspondant grosso modo aujourd'hui à la Serbie, à la Macédoine et au nord de la Grèce, autour de Thessalie. Donc, dès ce premier empereur, il n'y a rien qui va essayer de contrôler, de garder la situation en main, va décréter une première persécution. Et cette persécution, au début de l'hiver 249-250, c'est pour ça que j'ai choisi cette date. Et Dès, en 250, désire renforcer l'unité de l'Empire, mais autour de la religion de Rome, c'est-à-dire autour d'une religion païenne, c'est-à-dire la croyance en la divinité de l'État. Est-il si sûr qu'on ait oublié cette idée qu'elle ne renaisse pas sous d'autres formes aujourd'hui? Donc, dès on donna à tous les citoyens, évidemment les chrétiens étaient surtout visés, plus particulièrement visés, de participer à un sacrifice général aux dieux immortels. Et cette décision confrontait les chrétiens à une situation tout à fait nouvelle et dramatique, car jusqu'à maintenant, les chrétiens, peu aimés peut-être, peu connus, mais en tout cas pas persécutés jusqu'à maintenant, de manière violente. Et donc, pour eux, c'était dramatique. Il s'agissait pourtant de peu de choses. Faire brûler devant une statue de l'empereur ou des idoles un ou deux grains d'encens et abjurer, bien sûr, la foi au Christ. En échange de quoi, on vous remettait un billet comme quoi vous étiez en règle et vous ne seriez plus inquiété. Mais toute insoumission entraînait un procès criminel. Si beaucoup cédèrent, beaucoup aussi furent nombreux les martyrs. Alors de cette époque, pour donner quelques noms, le pape Saint Fabien de Rome, Saint Babylas d'Antioche, Saint Agathe de Catane. Et dans cette première persécution, le grand Cyprien de Carthage, le grand Saint Cyprien, évêque de Carthage, et Saint Denis d'Alexandrie, le patriarche d'Alexandrie, eux ont fui au désert. Mais en 251, Dès met fin à la persécution. Et c'est en 257 que, sous le règne de Valérien, son successeur, la persécution reviendra, et là, on verra le grand, le très grand saint Cyprien de Carthage massacré, martyrisé. Il sera le 14 septembre 258. Nous possédons aujourd'hui la totalité des actes de son procès dans la Vita Cypriani qui a été écrit par un certain Pontius. En 260, deux ans après, Valérien fait prisonnier par l'empereur des Perses, le souverain sassanide Chapur II, et il le met à mort. Son fils Gallien allait un moment infléchir la politique antichrétienne de son père. Par deux rescrits, il fit restituer aux chrétiens les lieux de culte et les cimetières qui leur avaient été confisqués. Donc, c'est très important car il va associer les évêques à cette mesure, ce qui signifie qu'il reconnaît l'autorité hiérarchique effective des évêques sur leur communauté. On entre dans une église qui a des évêques et que l'État, pas du tout chrétien, complètement païen encore à cette époque, commence tout de même à reconnaître. Et Paul de Samosate, commentant ce qui se passe à Antioche en 272, dit « le bien litigieux », car les biens qui ont été confisqués, mais qui appartiennent à eux, devra appartenir à ceux qui sont en communion avec l'évêque de Rome. Désormais, l'Église constitue un fait que l'État ne peut plus ignorer. Et Constantin, en réalité, dès l'entrée de jeu, ne fera que ratifier une situation qui est déjà acquise. Mais en la développant, en l'asseyant, nous allons voir ça dans un petit moment. Alors, à la suite de cette période, vers 258, tout va s'arrêter par la mort de l'empereur Valérien en 260. Alors, tout le monde va se mettre à respirer. Et tout le monde va être heureux et l'Église va un peu se développer. Les populations les conversions vont se faire. Des notables vont commencer à adhérer à la vie de l'Église. Mais, comme chaque fois que ça va mieux, que les choses s'arrangent, que le bien-être s'installe, eh bien la vie morale s'en ressent immédiatement. Et il y a un relâchement, une nonchalance dénoncée par Eusèbe dans son histoire ecclésiastique qui atteignent, dit-il, tous les croyants. Or, la participation au culte païen est attachée aux fonctions magistérielles, des aux magistrats de l'Empire, dont certains sont quand même déjà christianisés. Alors, que faut-il faire? Les fonctions magistérielles vous assurent la fortune. Et pourtant, vous êtes chrétien, votre famille est chrétienne, peut-être même avez-vous été baptisé, alors que faire? Que faire? Eh bien, essayez de trouver un compromis. Et d'accommodement en accommodement, on voit bien qu'il y a un relâchement très sérieux qui inquiète, d'ailleurs, à tel point qu'un concile va se réunir à Elvire. Elvire, c'est au sud de l'Espagne, dans la région de Grenade. Et les canons d'Elvire sont intéressants parce qu'ils nous permettent de cerner la réalité des maux qui affligeaient la société chrétienne en cette fin du IIIe siècle et à la veille, ce que tout le monde ignorait, mais d'une persécution qui serait pire encore. En fait, bon, je ne vais pas vous développer ces canons, ce serait un peu long, un peu technique, mais sachez tout de même que ces canons révèlent combien le paganisme ambiant, retenez cette idée, avait pollué la vie chrétienne. Et évidemment, c'est allé jusqu'à ce que des baptisés entrent quand même dans le temple. Sous la persécution, on refuse, par une grâce sans doute toute spéciale, et une piété sans doute plus profonde. Quand tout va bien, non, non. En réalité, la charge, il y avait la charge des flamines aussi, qui était une charge honorifique, mais enfin, il n'empêche qu'il fallait brûler de l'encens pendant un an. On disait qu'après tout, ça pouvait durer un an, et qu'après... Alors là, les sanctions sont extrêmement importantes, et le Concile d'Elvire s'est distingué en particulier par ses sanctions sur la pénitence. Et je vais vous donner un exemple, que l'on trouve dans le canon 4 du Concile d'Elvire. Si le flamine était simplement catéchumène, c'est-à-dire qu'il se préparait au baptême, s'il n'avait pas sacrifié, mais qu'il avait quand même participé à un culte du temple, il ne pourrait recevoir le baptême que 3 ans après. Le Concile d'Elvire va établir, dans les cas d'adultère, par exemple, ou de mariage, des disciplines terribles, certains péchés ne pouvant être mis que in articulo mortis, au moment de la mort. Donc il y a un relâchement. Et évidemment, comme chaque fois qu'il y a un relâchement, eh bien, il y a des conséquences. Et les conséquences sont cette nouvelle persécution qui pointe. Mais en même temps, parallèlement à ça, à l'intérieur du paganisme, une nouvelle forme de religiosité est en train de s'installer. Et l'on peut dire, je crois sans exagérer, que le moment du grand et ultime face-à-face entre le monde antique issu du paganisme et l'irréversible ascension de la foi chrétienne approchait. Et elle se manifestera, cet affrontement violent, dans une nouvelle période de persécution qui sera le propre de l'empereur Dioclétien. Mais il faut tout de même que je vous dise un mot sur cette nouvelle religiosité qui est en train d'éclore au sein du paganisme lui-même. À la fin du IIIe siècle, le monde romain, pour surmonter les périls qui l'assaillent, a dû se soumettre à la rude discipline d'un État totalitaire. Il a su unifier, absorber les énergies de cet immense espace. Et au sommet de la pyramide, l'empereur, donc un souverain absolu, qui s'exerce par l'intermédiaire d'un système administratif hiérarchisé impitoyable, une bureaucratie envahissante, vous voyez déjà, et une armée forte. Cette organisation, évidemment, a un coût, dont la fiscalité est de plus en plus lourde, et un système répressif et de police est au service d'une répression sans mansuétude. On dit que l'histoire ne repasse pas les plats, j'en suis quand même moi beaucoup moins sûr. Mais ce programme avait été rendu possible parce que était né un fait nouveau qui était l'exaltation du chef. Une espèce de divinisation du prince qui en réalité le surélevait au-dessus de tous les mortels. Depuis Auguste, la structure du pouvoir politique avait toujours bien possédé, d'une certaine manière, un certain caractère religieux. Mais à la fin du IIIe siècle, le monde antique entre dans une véritable révolution spirituelle. Parce que le paganisme était vidé de sens, on pratiquait des rites, mais que signifiait-il vraiment? Donc, après l'incroyance relative, ou peut-être plus justement, faudrait-il dire l'indifférence religieuse qui avait caractérisé la période hellénistique et le début de du Haut Empire, l'homme méditerranéen, subitement, retrouve le sens du sacré et qui devient un élément déterminant dans sa perception et dans sa conception du monde et de la vie. Pour le dire autrement, la vieille religion polythéiste de l'Antiquité est destituée et cède le pas à un nouvel idéal spirituel qui révèle ses caractères originaux. Alors, simplement pour que vous compreniez, le paganisme antique, avant cette époque, exprimait son sens du sacré par la notion, par un mot grec, todeion, le divin. Neutre, c'est une notion neutre, de le divin. Maintenant, si on est passé de le divin, qu'est-ce que le divin? Les forces supérieures, le divin, c'est très diffus, ça n'est surtout pas défini. Et là, subitement, apparaît dans la littérature, toujours en grec, le mot « otéos », c'est-à-dire « Dieu ». Dieu, un absolu, un transcendant personnel, principe et fin de toute chose, objet d'adoration et d'amour. Je ne peux pas développer ça plus longtemps, mais le stoïcisme a en quelque sorte préparé le message de la révélation chrétienne, comme quoi le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre et prépare le terrain. Et donc ce mouvement, évidemment, a été engendré par les influences orientales, sémitiques et chrétiennes qui petit à petit, parce que nous sommes quand même au IIIe siècle, il y a 350 ans que le Christ est mort, et donc on voit bien que petit à petit a émergé de ce paganisme, on n'est pas encore à la conversion, mais cette notion, retenez ça, d'un Dieu personnel. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît cette religion d'origine orientale, ne l'oublions pas, parce que le christianisme est une religion qui est née au Moyen-Orient. Et donc, elle s'apprête à exploser. Elle est en concurrence avec d'autres. Il y a le culte de Mitra, dont on pourrait parler, ce qui serait fort intéressant, qui nous a été apporté par les légions romaines, qui, elles, venaient de Perse. C'est une véritable religion cosmique, avec des rites très élaborés. Mais malgré tout ça, il n'y a pas vraiment de concurrence. Il y a une attente dans ce paganisme, avec cette découverte, cette conception, tout intellectuelle certes, mais enfin tout de même, d'un Dieu personnel transcendant que l'on doit adorer et qui est digne d'amour, car le paganisme ignore l'amour évidemment vis-à-vis de Dieu, qui est une espèce de marchandage permanent, n'est-ce pas? Et puis ce christianisme qui commence à toucher petit à petit toutes les couches de la société. Dioclétien va s'attaquer dur comme fer à ce vieux paganisme. Et donc il va lancer une deuxième campagne de persécution qui sera extrêmement dure au tout début du IVe siècle. Et là, quand on ouvre le martyrologe, il nous est arrivé d'ouvrir le martyrologe, c'est-à-dire ce livre qu'on lit dans l'Église d'Occident, dans l'Église d'Orient tous les matins, hein, où on cite les saints du jour, le nombre impressionnant de martyrs de la persécution d'Odès ou de Dioclétien. Mais néanmoins, le christianisme, qui aurait pu disparaître dans cette confrontation, eh bien, s'est trouvé en quelque sorte renforcé. La foi de ceux qui étaient persécutés a été stimulée. Et alors va arriver dans ce contexte un personnage fondamental qui est Constantin, l'empereur. Alors comprenez bien, je ne vais pas vous raconter la succession de Dioclétien à Constantin, parce que dans cet espace de 7 années, on a assisté à un nombre de massacres, de coups d'État, d'empereurs qui n'auraient pas d'intérêt. Simplement comprenez, Dioclétien, qui malgré tout a structuré un empire qui, une fois qu'il s'est christianisé, durera tout de même jusqu'en 1453 à Constantinople. Ne l'oublions quand même pas. Donc il a quand même fondé des institutions, des fondements d'institutions. Et donc il a fondé ce qu'on appelle la tétrarchie. C'est-à-dire qu'il y avait deux empereurs, deux co-empereurs, si vous voulez, un pour l'Orient, un pour l'Occident, donc deux Augustes, et deux Césars, deux adjoints, si vous voulez, un pour l'Orient, un pour l'Occident. Alors évidemment, ils vont tous se faire la guerre les uns les autres, vous en doutez bien, parce que ça fait beaucoup, 4 personnes, d'ailleurs Dioclétien, ça ne durera pas longtemps. À la mort de Constantin, on peut dire que la tétrarchie a vécu. La tétrarchie a vécu. Et donc, ils vont se faire la guerre les uns les autres, et va arriver à un moment donné un personnage extrêmement intéressant, et c'est de lui dont je voudrais quand même vous parler, parce qu'il est essentiel. Avec lui, on va sortir des persécutions. Avec lui, l'Église va commencer à se structurer, à s'organiser, à avoir une visibilité. Non pas que le paganisme aura complètement disparu, même chez Constantin lui-même. Les rituels impériaux, le pontifex maximus, n'est-ce pas ? Le pontife suprême, c'est un titre impérial. On l'emploiera beaucoup plus tard à l'endroit du souverain pontife, mais c'est un titre impérial. Ce n'est pas du tout un titre ecclésial. Alors, Constantin, son père est déjà empereur, et à la mort de son père, qui se bat en Bretagne, enfin la Bretagne à l'époque c'est l'Angleterre, dans les textes si vous lisez Bretagne au 3e, 4e siècle, vous n'êtes pas à Brest, vous êtes de l'autre côté. Vous savez, chez ceux-là qui ont fait le coup du Brexit, là, ce qui m'a beaucoup amusé, mais je ferme la parenthèse, ça n'a rien à voir avec le sujet de ce soir. Et donc, son fils va être porté, c'est les armées c'est les troupes en réalité qui vont faire acclamer. Et donc, elles vont acclamer pour l'Occident Constantin. Et Constantin est un personnage extraordinaire parce que c'est lui vraiment qui va faire entrer, qui va donner une visibilité, une authentique structure, et des mots très à la mode aujourd'hui, mais des droits à l'Église. Alors, Constantin est à la fois, et j'aime beaucoup cette expression du regretté Karl Ferdinand Werner, sauveur de l'Empire devint sauveur du christianisme. Car il n'est pas sûr tout de même que s'il n'y avait pas eu Constantin, il n'est pas sûr que la persécution n'aurait pas duré, parce que ce sont des minorités qui sont chrétiennes. On ne peut pas faire de statistiques, les statistiques n'existaient pas, mais ce sont manifestement des minorités, sauf en certaines contrées tout à fait privilégiées. On verra ça au 4e siècle, par exemple, dans ce qu'est la Turquie d'aujourd'hui. Vous aviez autour d'Alexandrie, en Égypte, et en Cappadoce, ces grandes figures que sont Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nice, Saint Basile le Grand. Là, vous aviez des foyers absolument énormes. Mais en 314, pour vous donner 314, le concile d'Arles, pour régler l'affaire du donatisme dont je ne vous parlerai pas ce soir, qui est né en Afrique, qui a empoisonné quand même l'Église, le début de l'impéria de Constantin, pour régler cette affaire, convoque un concile dans la ville d'Arles, qui est ville impériale, Arles, là, sur les bords du Rhône. Eh bien, en 314, il y a 17 évêchés en France. Au même moment, il y en a plus de 600 en Afrique du Nord, c'est-à-dire c'est correspond grosso modo au Maroc, à l'Algérie, à la Tunisie et à la Libye. Bon, c'était des évêchés qui étaient certes beaucoup plus petits, mais il y en avait 600. À la mort de saint Augustin, en 430, il y avait un nombre impressionnant d'évêchés qui, sous la pression évidemment des invasions barbares, vont être réduits, avec les Vandales en particulier, et les Alains, vont être réduits considérablement. Et on va insister, l'islam arrivera par là-dessus au 7e siècle, et là, on verra pratiquement cette chrétienté d'Afrique du Nord pratiquement disparaître. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une immense chrétienté en Afrique, il y a une immense chrétienté en Cappadoce, il y a une immense chrétienté en Égypte, mais d'ailleurs, c'est assez épars. Mais pourquoi je vous ai donné l'exemple de la Gaule? Bien parce que 314, au début du 4e siècle, 17 évêques recensés au concile d'Arles venant de la Gaule. Donc, ça veut dire que si nous étions notre christianisation s'est fait assez tardivement. Alors, il faut tout de même rappeler qu'on a découvert vers 1866, je crois, peu importe la date d'ailleurs, mais bon, à ce moment-là, on a découvert une inscription dans la ville d'Autun qui date de 177, avec une formule chrétienne, avec le symbole des chrétiens, qui était le poisson. Le poisson qui, en grec, se dit ictus. Ictus. Et si vous prenez ictus, prenez les lettres une à une, eh bien, cela vous donne en grec Jésus Christos, Theo, Ios, Soter. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est le symbole des problèmes. On le trouve à Autun en 177. Bon, on sait qu'il y a une communauté importante à Lyon avec Saint-Irénée, qui a été ordonné évêque par Saint Polycarpe qui a connu Saint Jean. Donc là, il y a une source certaine, assez mystérieuse. Pourquoi Lyon? Pourquoi c'est arrivé à Lyon? Pourquoi on ne trouve pas de traces à Marseille pour la même époque? C'est un vaste débat. Je n'ai pas l'intention ni de l'évoquer, ni de le trancher, surtout ce soir. On n'y a pas le trancher, parce qu'on serait bien, incapable de le trancher. Mais tout ça pour vous dire que la christianisation n'était pas si évidente que ça. Et que si un Constantin n'était pas arrivé, il n'est pas certain que le christianisme aurait pu s'installer. C'est pour ça que j'aime particulièrement cette citation de Werner, « Sauveur de l'Empire, il devint sauveur du christianisme ». Parce que le règne de Constantin, en réalité, a vu s'accomplir certainement la mutation la plus importante qu'ait connue l'histoire de l'Église, avant évidemment les événements terribles qui marqueront les temps modernes. L'historien, poursuit le grand Irénée Maroux, voudrait pouvoir relier les décisions politiques prises par cet empereur à son évolution intérieure, à ses convictions personnelles, religieuses. Malheureusement, il est plus facile de formuler des hypothèses à ce sujet que d'établir des faits précis et assurés. Mais au-delà des conjectures, une certitude s'impose. C'est celle de sa conversion qui fit d'un homme païen, tolérant, il n'a jamais persécuté les chrétiens comme son père d'ailleurs, et éclairé, mais va faire de cela un empereur chrétien. Et il est vrai que la date de son baptême est tardive, puisqu'il ne sera baptisé que quelques jours avant sa mort, le 22 mai 337, mais ne saurait contredire le fait. En effet, à cette époque, cet usage était assez fréquent. Comme le baptême effaçait tous les péchés, il y a des gens qui attendaient d'être à la fin. Mais nous sommes dans des périodes de conversion. Aujourd'hui, ça ne serait pas tellement défendable. Nous serions là dans une casuistique condamnable. Enfin, pour moi, déjà, la casuistique est condamnable en soi, mais là, elle le serait de façon patente et absolue. Bon, non, mais à ce moment-là, le temps de la casuistique n'était pas venu, n'existait pas. Et donc, et vous savez, vous prenez de grands évêques, par exemple, comme Saint Grégoire de Nazianze, que les Orientaux appellent de son vrai nom Saint Grégoire le théologien, vous prenez Saint Basile le Grand, qui ont été quand même, qui sont des grands pères de l'Église, qui ont été nés dans des familles chrétiennes, ont été baptisés extrêmement tardivement. Enfin, tardivement. Ils étaient adultes, ils étaient de jeunes adultes, lorsqu'on les a baptisés. Donc, il ne faut pas se considérer, parce que, évidemment, la critique s'est emparée de ça, on dit, bon, il s'est fait baptiser à, au moment de sa mort, mais en réalité, sa conversion, elle était surtout politique. Eh bien, je voudrais vous montrer, justement, qu'elle n'était pas, justement, que politique, et qu'elle n'était certainement pas politique. Alors, je vous l'ai dit, sans entrer dans les détails, Constantin devient empereur parce que la guerre et la mort avaient éclairci considérablement la situation. Et donc, il restait, trois empereurs, quatre, deux Auguste et deux César, Constantin, Maxence, Licinius, tout ça pour pratiquement l'Occident, et l'Afrique, et puis Licinius, et puis Maximin d'Aïa pour le diocèse d'Orient, c'est-à-dire l'Asie mineure, entendez, la Turquie, la Syrie, l'Irak, ce qu'on appelle maintenant la Terre Sainte, qui était la Palestine, et l'Égypte. Bon, les trois premiers empereurs vont se rallier en disant « on ne persécute plus les chrétiens ». Maximin d'Aïa, lui, va continuer à imposer le martyre, les persécutions dans ce Moyen-Orient qui, vous voyez, aujourd'hui comme hier, d'ailleurs, ça n'a guère cessé au Moyen-Orient. Ils ont une vocation, je crois, au martyre. Donc, Constantin, sa capitale à l'époque est Trèves qui est aujourd'hui dans le sud de l'Allemagne, comme vous le savez, eh bien, Constantin, là, est en lutte contre les barbares germains qui continuent à traverser le Limès. Il s'est allié un moment avec Maximin, sous son autorité, dont il faut souvenir, alors, il est en réalité le seul empereur légitime. Les autres sont arrivés par des combines, se sont maintenus, etc. Mais lui, Constantin, est vraiment en pleine légitimité. Donc c'est déjà très important, c'est un empereur incontesté et incontestable. Ainsi, au début de l'année 312, il entreprend, avec l'aide de forts contingents barbares, des Alamans et des cavaliers francs, que l'on voit intervenir là pour une des premières fois dans l'histoire, le franchissement des Alpes par le col du Mont Genèvre pour se diriger vers l'Italie. Pourquoi vers l'Italie ? Bien, pour aller vers Rome, parce que Rome, comme vous le savez, est la capitale de l'Empire. Alors il va s'opposer aux troupes de Maxence à Turin. Milan va se livrer à Constantin. Cette armée poursuit sa marche par Brescia, Vérone, qui va tomber à son tour, suivie de la reddition d'Aquilée, qui va bloquer la voie de l'Illyrie, c'est-à-dire tout ce qui va vers la Croatie, pour que je vous donne les noms aujourd'hui pour que vous compreniez, tout ce qui va vers la Croatie, vers la Yougoslavie, qui est alors tenue par Licinius. La progression de Constantin dans le nord de l'Italie ne semble pas inquiéter Maxence, qui siège à Rome, qui est un usurpateur, qui s'est replié à Rome. Rassuré qu'il était à l'intérieur des forts remparts de la ville, devant lesquels les empereurs Sévère et Galère avaient déjà échoué. Constantin prend son temps. Il s'installe dans la plaine du Pô et il poursuit, de façon régulière mais sans précipitation, son avancée vers Rome. L'inertie de Maxence invite les Romains, influencés par la propagande de Constantin, et déjà de la foule surgit des cris qui assurent l'invincibilité de Constantin. Déjà à Rome, voyant que Maxence ne bougeant pas, Constantin précédé de sa réputation, de ses triomphes, mais précédé aussi de ses envoyés qui, évidemment, Vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là, hein. On achète un peu l'opinion, c'est-à-dire il y a un nouveau sous le soleil. Eh bien, déjà dans Rome, on commence à se... Et l'armée de Constantin, c'est ça qui est absolument incroyable, ne va rencontrer aucune troupe lui faisant obstacle. Et c'est ainsi qu'il va arriver paisiblement, si j'ose dire, au nord de Rome, le long de la Via Flaminia, sans doute à côté d'un lieu qui est assez connu si vous êtes allé en Italie, au nord de Rome, qui s'appelle le Malborghetto, hein, autrement dit le pont Milvius. Et là, que va-t-il se passer? Le moment décisif de la bataille se situe donc à ce moment-là sur les bords du Tibre, en amont du pont Milvius. Sur la Via Flaminia, à environ, les auteurs disent, 2000 de Rome. Alors le 1000 romain, retenez ça, vous aurez au moins appris quelque chose d'original ce soir, et facile à retenir, le 1000 romain fait 1481,50 m. Le 1000 gaulois fait 1200 et quelques. Je vous dirai des bêtises, autour de 1200. On est à 3 km de Rome, au nord de Rome, grosso modo. Quoique la bataille et la victoire qui s'en suivit furent décisives, les récits chez les divers historiens, et ça c'est assez incroyable pour un événement aussi décisif, mais c'est l'histoire en réalité, les conséquences de ça qui l'ont révélé comme décisif. Les récits sont brefs, très conventionnels, ainsi que souligne Pierre Baraval, qui est un des spécialistes de Constantin. Et on sait que c'est au cours de cette bataille qu'il y eut une intervention divine et qu'il y eut ce fameux labarum, c'est-à-dire cette apparition d'un étendard avec la croix. Alors, ça pourrait faire l'objet de toute une conférence parce qu'il y a plusieurs versions de cette affaire. La version en évolue chez le principal auteur qui nous intéresse, qui est Eusèbe de Césarée Maritime, qui est le premier grand historien de l'Église. Son histoire ecclésiastique est absolument fantastique et en général elle est fiable. Bon, avec évidemment des textes, il y a des passages, il y a des témoignages, il y a des choses qu'il faut remettre dans le contexte, mais elle est fiable. Et donc c'est lui qui est le plus précis, et je ne vous donnerai que sa conclusion à lui. Je ne vais pas vous entraîner dans le débat entre l'interprétation qu'en donne Lactance et celle qu'en donne Eusèbe, d'autant qu'ils sont d'accord sur la conclusion, ils ne sont pas d'accord sur les circonstances. Vous savez, en histoire, j'en profite pour vous dire que l'histoire n'est pas une science exacte. On l'a un peu oublié aujourd'hui, on veut donner des vérités officielles au nom de l'anti-histoire d'ailleurs, mais sachez que l'histoire n'est pas une science exacte. On approche des témoignages, on approche des textes, on établit des conjectures, on regarde si ça se tient. C'est vrai, alors des faits, évidemment, personne qui est tué tel jour à telle heure, bon, ça, il n'y a pas de problème, c'est incontestable. Mais après, comment interpréter ce songe de Constantin? S'agit-il d'un songe ou s'agit-il d'un rêve? Si c'est un rêve, est-ce une apparition? Je retiendrai, parce que j'ai un faible pour lui, donc je ne suis peut-être pas absolument objectif dans cette affaire. Mais, je vous l'ai dit, l'historien n'est pas un type qui fait des équations. Et donc, je trouve que la dernière version de la vie, la Vita Constantini, première partie, et au paragraphe 28 et 29, voici ce que nous dit Eusèbe, qui en plus était le confident de l'empereur Constantin, sur ce qui s'est passé le jour de cette bataille, qui va quand même déterminer, être un moment décisif, je pense, dans la conversion de Constantin. Vers le milieu du jour, alors que le soleil commençait à décliner, il dit, Constantin, qu'il vit de ses yeux, donc nous ne sommes pas dans un songe ou dans un rêve, qu'il vit de ses yeux, dans le ciel lui-même, au-dessus du soleil, un trophée en forme de croix, fait de lumière, et un texte qui lui était attaché et qui disait « par celui-ci, par ce signe, par ce labarome, par cette croix, soit vainqueur. Et s'interrogeant sur le sens de cette apparition, au cours de son sommeil, le Christ de Dieu lui apparut avec le signe qu'il avait vu dans le ciel. Il lui ordonna de faire une copie du signe apparu dans le ciel et de se servir de celui-ci comme d'une protection contre les attaques des ennemis. Donc nous sommes bien en présence, puisque Eusèbe a recueilli les dernières confidences de l'empereur, et il n'a écrit ça qu'après la mort de l'empereur, parce que dans le premier récit, il n'avait pas donné autant de précision. Et pour ceux qui parmi vous connaissent Rome, ou s'ils n'y sont pas allés, je vous incite fortement à aller à Rome, eh bien c'est cette vision qu'au Vatican vous pouvez voir dans les fameuses stances de Raphaël, puisque dans les stances de Raphaël, il y a la fameuse chambre de Constantin, et bien dans les appartements du pape Jules II, au deuxième étage du palais apostolique, sont reproduits cette bataille de Milvius et évidemment l'apparition de la croix. Alors ceci va évidemment déterminer chez notre cher Constantin, lui déjà qui pensait à la foi, va sentir qu'il doit aller plus loin, et cette victoire qu'il va remporter sur l'usurpateur Maxence et lui permettre de rentrer en triomphateur à Rome va l'inciter à devenir réellement un empereur qui va s'intéresser à l'Église et à la foi chrétienne. Et la bienveillance de Constantin envers l'Église, ça, Eusèbe nous le raconte dans son histoire ecclésiastique, est bien antérieure à la bataille du pont Milvius. Car il y a dans le texte d'Eusèbe, il y a une théorie politique. C'est qu'il y a tout de même une sécurité de l'Empire qui est assurée par le Dieu suprême et non plus par les dieux de la tétrarchie. Cette intervention directe de Dieu, oserais-je dire, dans l'histoire. Donc, il y a là une espèce d'association à des données politico-religieuses et la reconnaissance officielle que la religion ne peut pas traiter, elle n'est pas contrainte, elle ne dépend pas de ces rites extérieurs du paganisme. Et Constantin va, à partir de ce moment-là, non pas s'attaquer avec violence au paganisme, il ne va pas répéter à l'endroit du paganisme la violence que les chrétiens ont subie, mais il va, au contraire, essayer de trouver un statut, de donner un statut à ce christianisme. Et il va le faire au travers d'un événement très important qu'on appelle l'édit de Milan. Alors il faut que je vous dise de quoi il s'agit. C'est une des rares dates que tout le monde connaît. En faculté, je me rappelle quand il est 313, tout le monde savait que c'était l'édit de Milan. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore vrai, mais enfin, c'est une date qu'en général, que vos générations, je pense, d'avant 313. Alors, qu'est-ce que l'édit de Milan? Vous verrez tout à l'heure qu'il n'est pas de Milan, mais ça, c'est une chose très amusante. À cela, n'est-ce pas, il faut bien qu'au début donc, de 313, cette fameuse... Donc, après la rentrée à Rome, Constantin et Licinius s'étaient réunis à Milan, qui était l'une des capitales impériales, pour sceller une étroite alliance. Licinius, qui était donc empereur plus à l'est, en Illyrie, a épousé tout simplement la demi-sœur de Constantin, la princesse Constantia. Ce dernier, en effet, après avoir apporté, donc Ticinus, un certain nombre de victoires sur le Bosphore, et en Thrace, la Thrace correspond aujourd'hui à la Bulgarie, contre Maximin Daya, celui qui poursuivait la persécution dans toute la Parse orientale de l'Empire, a pris possession de la capitale, qui n'était pas encore Constantinople, qui n'existait pas. Constantinople sera fondée par Constantin en 330, nous sommes là en 313. La capitale impériale se trouve aujourd'hui donc sur le Bosphore, de l'autre côté, c'est-à-dire en Turquie aujourd'hui, et c'est la fameuse ville de Nicomédie, là d'ailleurs où Constantin recevra le baptême et mourra en 337. Et donc, Licinius, victorieux de Maximin Daya, prend possession de sa capitale en juin 313, et à ce moment-là, il publie un premier texte, un rescrit, qui exprime avec précision la nouvelle politique impériale. Et voici exactement ce qu'il écrit. Et comme il s'était retrouvé à Milan, il évoque cette rencontre avec Constantin. En réalité, cet édit appartient aux deux. Il n'est pas que l'édit de Constantin, mais il a été discuté à Milan sur les terres, si j'ose dire, de Constantin. Et voici ce qu'il dit. Enfin, je vous donne quelques passages essentiels, parce que le texte est beaucoup trop long. « Pendant que nous étions réunis à Milan, moi Constantin et moi Licinius, et que nous traitions ensemble de tout ce qui a rapport à l'intérêt de l'État, parmi les choses qui nous ont paru utiles au plus grand nombre, nous crûmes devoir assigner le premier rang à ce qui concerne le culte de la divinité en accordant aux chrétiens et à tout le monde libre la libre faculté de suivre la religion qu'il voudrait, afin que tout ce qu'il y a de divinité dans le séjour céleste pût être favorable et propice à nous et à tous ceux qui sont placés sous notre autorité. Et plus loin, en ce qui concerne les chrétiens, nous avons décidé en outre pour les locaux où ils avaient coutume de se rassembler, à propos desquels des lettres adressées à vos bureaux, cette circulaire est envoyée à tous les préfets de province, adressées à vos bureaux précédemment et donné des instructions, que ceux qui les auraient achetées à notre fils ou à qui que ce soit devraient les rendre aux chrétiens sans argent ni réclamation d'un prix, sans chercher prétexte ou soulever des ambiguïtés, ceux qui les auraient reçus en donation devront les rendre eux aussi aux chrétiens dans le plus bref délai. Tout cela devra être remis à la communauté des chrétiens par vos soins et sans retard. Basculement. Le paganisme va continuer, le culte impérial va continuer à subsister sous des formes. Il faudra attendre Théodose, dont nous parlerons la prochaine fois, pour que ces choses. Mais déjà, on voit bien que Constantin a déjà bénéficié d'une certaine dynamique qui était déjà en place. Il y avait déjà une première reconnaissance assez vague, mais tout de même, des évêques à la fin de la persécution de Dèce. Et là, on voit bien qu'on franchit un pas de plus. L'Église va se retrouver avec une sorte, si vous voulez, de personnalité morale très importante. Et pour vous donner un exemple, ces trois basiliques qui vont être construites à Rome, avec l'argent impérial. Donc, d'abord, il va donner au pape Miltiade le palais du Latran. Vous voyez, aujourd'hui, la basilique Saint-Jean de Latran, eh bien, nous sommes sur l'ancien palais donné par Constantin. La basilique, d'ailleurs, son vrai nom, c'est la Basilica Constantiniana, la basilique constantinienne. On le trouve dans les textes. L'église est consacrée à Saint-Jean-Baptiste, certes, mais le nom premier, c'est cette basilique du Saint-Sauveur, du Latran, et son baptistère, bien sûr, qu'il faut aller voir, qui est absolument admirable. Bon. Ensuite, il y a le fameux palais Caesarianus, qui est la basilique où on trouve les reliques de la vraie croix, Sainte Croix en Jérusalem, à Rome, évidemment. Et puis, il faudrait citer la basilique Saint-Laurent, la basilique des Saint-Pierre et Marcellin, où il y a parmi les plus belles fresques que l'on puisse trouver dans les catacombes. Et cette basilique sera aussi le lieu de sépulture de Sainte Hélène, l'impératrice mère de l'empereur Constantin. Il faut citer la basilique Sainte Agnès, bien sûr, et le mausolée de Constantina sur la Via Nomentana, au nord de Rome. Mais il va construire aussi de nombreux éléments. Il y a aussi la basilique Saint-Pierre, mais j'allais oublier bien sûr la basilique Saint-Pierre au Vatican sur le tombeau du Christ. Mais il y en aura en Afrique. Il y aura Albano, Capoue, Naples, Ostie, Aquilée, tout ça en Italie. Nicomédie, bien sûr, en Bithynie, c'est-à-dire en Turquie, dans la partie, mais ça c'est la partie la plus proche du Bosphore. Hein. Bon, il y aura aussi Hélénopolis, Antioche et en Palestine, bien sûr, sur l'ensemble des lieux saints. Donc il y a vraiment une volonté délibérée d'édifier des cultes et surtout de donner à l'Église les moyens aussi de pouvoir, évidemment, construire ses bâtiments et que l'Église puisse assumer son autonomie financière. Donc non seulement les travaux étaient financés, mais tout était fait pour l'Église. Des tribunaux ecclésiastiques seront aussi reconnus et établis par l'empereur Constantin lui-même. Alors bien sûr, on a dit que Constantin, tout ça, c'était... il avait fait tout ça par intérêt. Non, Pierre Marval, dans son magnifique Constantin, publié chez Fayard, que je vous incite à lire, si le personnage de Constantin vous intéresse, hein, souligne que nous possédons à peu près, nous possédons encore 40 lettres de Constantin et une quantité de textes. Et ces textes sont tout à fait tous révélateurs de sa pensée profonde. Alors on a reproché, bien sûr, ce culte qui était à Rome, celui du le sol invictus, le soleil invincible, n'est-ce pas, qui représentait Jupiter, qui représentait le pouvoir, etc. Le malheur, dit, pour ceux qui pensent qu'il y avait confusion ou ambiguïté chez Constantin, eh bien, Pierre Marval répond en disant, mais les 60 lettres et la totalité des textes, lui n'a jamais fait sienne l'expression du sol invictus. Par conséquent, et en plus, qu'elle aurait été son intérêt politique, si son intérêt n'avait été que politique, quel aurait été l'intérêt de soutenir une minorité chrétienne, tout ce qui comptait, toutes les positions sociales en place étaient païennes, le Sénat était païen. Donc, on ne peut pas rejeter d'un revers de main l'authenticité la conversion de Constantin. Qu'il y ait trouvé un intérêt politique, c'est entendu. Enfin, connaissez-vous beaucoup de personnes qui, aussi saintes soient-elles, aussi chrétiennes soient-elles, se désintéressent absolument de la fonction qu'ils ont? Évidemment, il y a un intérêt à profit politique, mais ce profit politique a été mis au service de l'Église et au service de la paix de l'Empire. Et puis, il y a un dernier point, que je voudrais souligner, oui, j'ai encore 10 minutes, il est moins 25, donc je me dis que m'arrêtera moins le quart. Hein. Il y a un dernier point que je voudrais souligner, qui mériterait évidemment un très très long débat, parce que la question est absolument passionnante, c'est la question du concile de Nicée. Il y avait à ce moment-là, parce qu'évidemment, l'Église s'est réveillée, mais l'Église s'est structurée, et dans les premiers siècles, on était assez vague sur la nature de la divinité, et surtout sur la nature des rapports entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il faut vous dire que lorsque cette vérité biblique, cette vérité évangélique va arriver dans le monde grec, platonicien, le monde des idées, la pensée que Dieu est un fils, est quelque chose qui est absolument que ce Fils soit incarné. Pour un platonicien, vous savez, le corps humain, c'est une chambre d'hôtel. C'est le père Spic qui disait ça autrefois. Pour un platonicien, le corps humain, c'est une chambre. Quelle horreur que le corps! D'où, dans un platonisme excessif, pas chez tout le monde, mais qui peut aboutir jusqu'à la métempsychose, c'est-à-dire ce phénomène de réincarnation permanent jusqu'à la purification. Bon, total. Donc, l'incarnation pose un grand problème au monde grec. Or, vous le savez sans doute, les évangiles, comme d'ailleurs les épîtres, tout a été écrit, tout le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et déjà, les anciens, bien sûr, connaissaient la version de la Bible, la grande version que l'Orient, d'ailleurs chrétien, utilise toujours dans sa liturgie, dans sa théologie, c'est la Septante. Les fameuses Septante, donc c'est la traduction de la Bible en grec. Mais lorsque cette prédication, avec saint Paul en particulier, va arriver, souvenez-vous, lorsqu'il arrive à Athènes, sur l'Acropole, il prêche aux Athéniens, il y avait un autel aux dieux inconnus. Saint Paul prêche, les Athéniens sont enthousiasmés qu'on leur révèle le nom d'un nouveau dieu, il n'y en avait pas assez, alors un nouveau, ça allait changer un peu, seulement au drame. Lorsque saint Paul parle de ce dieu qui s'est incarné, qui est mort, qui est ressuscité, alors sans la résurrection, c'est pas possible. Ils ont un tel mépris du corps, donc de l'incarnation, que c'est impossible. Et donc, dans ce monde où arrive la pensée chrétienne, dans cet univers de la philosophie grecque, il va falloir trouver des mots adéquats pour transcrire des vérités théologiques dans le langage accessible à cette société grecque qui était très très cultivée, beaucoup plus cultivée que la société occidentale. Et ça durera d'ailleurs très longtemps. Donc, il va déjà y avoir un problème quant à la terminologie. Mais avant la terminologie, il y a aussi les concepts. Alors, l'arianisme, c'est quoi? Bon, l'arianisme a des antécédents. Je n'ai pas le temps de vous développer cette question qui est assez complexe en réalité. Mais, pour que vous savez d'ailleurs certainement, parce que ça vous l'avez certainement lu, entendu, peut-être même étudié un peu un jour, pour ce prêtre originaire d'Alexandrie, qui s'appelle Arius, le Christ ne peut pas être le Fils de Dieu. Il ne peut pas être le Fils unique de Dieu, semblable au Père. C'est une créature. Alors que nous savons très bien que le Christ n'est pas une créature. Il est engendré de toute éternité par le Père et il est lié au Père comme la lumière à la lampe. Et par conséquent, ces grands débats qui vont arriver petit à petit vont connaître un parcours paroxystique à partir du moment où Arius va radicaliser absolument sa position. Et parmi les propositions d'Arius, qui ont, avant d'ailleurs le concile de Nicée 325, seront déjà condamnées par un concile qui s'est tenu à Alexandrie sous la présidence de l'évêque d'Alexandrie, Saint Alexandre, le prédécesseur de Saint Athanase. Saint Athanase, à ce moment-là, est un jeune diacre, donc assistant du primat d'Alexandrie. Donc, déjà un premier concile qui va condamner les propositions d'Arius. Première proposition, Dieu n'a pas toujours été père. Il y eut un moment où il n'était pas père. Arius conçoit donc le Père, seul vrai Dieu. Il y a un moment où il est Père, un moment où il ne l'est pas. Il y a un moment où il ne l'est pas, un moment où il le devient. S'il l'est devenu, c'est donc qu'il a. Alors, le mot engendré n'existe pas. Il a donné naissance, il a créé purement et simplement un autre être qui est son Fils. Donc, première proposition condamnée. Deuxième proposition condamnée, qui sont des phrases que l'on trouve dans les écrits d'Arius, le Logos, le Verbe, donc le Fils de Dieu, n'a pas toujours été. L'hérésie est patente, il a été créé du néant. Dieu étant par lui-même, a fait du néant celui qui n'est pas lui-même. La proposition est clairement hérétique, elle nous apparaît comme telle aujourd'hui. Ça n'était pas si facile, parce qu'on discutait sur des termes grecs, où on opposait l'ousia, la substance, à la nature et à l'essence, et à la personne. Donc il y avait là quatre notions qui s'entremêlaient. Le gros argument d'Ardus, c'est de dire, mais de toute façon, le mot consubstantiel, homoousios, en grec, il a été créé en grec, ce mot, hein, donc de même substance, le Père. C'est plus que semblable au Père. Semblable au Père, c'est déjà de l'arianisme. Eh bien, ce mot-là a suscité des débats dont vous n'avez absolument pas idée, et c'est Saint Athanase d'Alexandrie qui nous les rapporte dans ses œuvres, et ça a été une bagarre insensée. Enfin, en tout cas, si le Logos n'a pas toujours été et qu'il a été tiré du néant, il est bien une créature, donc il n'est pas le Fils de Dieu. Et même si, philosophiquement, par rapport à la pensée grecque, ces choses n'avaient pas été définies, il était clair que dans la tradition pérenne des pères, des premiers pères, des pères apologistes, des premiers pères, en particulier je pense à Saint Irénée, il était absolument évident que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu, il était l'égal du Père, mais le mot homoousios a été rejeté par les Ariens d'ailleurs, parce qu'il n'était pas scripturaire, parce qu'il n'apparaissait pas dans la Sainte Écriture. Donc, Arius est clair, il y eut par conséquent un moment où le Logos n'était pas. Donc, conclusion, le Fils est une créature. Proposition condamnée au Concile d'Alexandrie. Cinquième proposition condamnée à Alexandrie, il n'est pas semblable en substance au Père. Il n'est pas véritablement et suivant sa nature, le Verbe et la sagesse de Dieu, mais une des œuvres des créatures de Dieu. C'est abusivement qu'il est appelé Logos. Il a été créé par le vrai Logos et par l'intime sagesse de Dieu. C'est par cette intime sagesse que Dieu l'a créé ainsi que toute chose. Donc, il est très clair, et retenez cette idée de l'arianisme, le Christ est une créature. Pour un arien, le Christ est une créature. Parfaite, extraordinaire, au-dessus de tous les hommes, très proches de Dieu, habité par Dieu, enfin, tout ce que vous voulez. Parce qu'après, il y aura des nuances dans l'arianisme. Je vous en fais grâce, parce que c'est très compliqué, l'arianisme. Il est condamné en 325. Mais vous savez, pour venir à bout de toutes les conséquences de l'arianisme, il faudra les sept premiers conciles écuméniques, hein, et on mettra un point final aux querelles christologiques, au concile qu'on appelle Nicée II, deuxième concile écuménique tenu à Nicée, en 781. Donc pour régler la question de l'arianisme et des conséquences de l'arianisme, il ne faudra pas moins de sept conciles écuméniques, 325-781. Vous imaginez le temps. Sixième proposition condamnée, car c'est là-dessus que Nicée va discuter et c'est là-dessus qu'ils vont s'affronter. C'est pourquoi il est de sa nature sujet au changement. Donc s'il est sujet au changement, il est sujet au péché. S'il n'est pas immuable dans sa nature, s'il peut changer, nous on change parce que nous pouvons être soumis au péché. Il est étranger à la substance de Dieu, à l'ousia de Dieu, et il en diffère. Il ne connaît point complètement Dieu. Il ne connaît même pas parfaitement sa propre nature. Donc, nous sommes là dans une hérésie parfaitement ciblée. Et huitième proposition condamnée, il y en a d'autres, j'ai retenu les principales, hein. Il a été créé pour nous, afin que Dieu pût nous créer par lui comme son instrument. Et il n'existerait pas, mais on retombe dans la créature, si Dieu ne l'avait appelé à l'existence pour l'amour de Dieu. Donc, il est celui par lequel Dieu va tout faire. Il sera presque le démiurge. Le mot n'est pas tout à fait juste, mais c'est pour vous faire comprendre. Hein ? Mais en réalité, ça, c'est complètement... Alors, évidemment, Arius est condamné à Alexandrie. Il va être chassé par le Saint-Évêque Alexandrie. Et il va aller porter son poison partout au Moyen-Orient, et il va trouver un évêque très complice pour lui, qui s'appelle Eusèbe de Nicomédie. Et Eusèbe de Nicomédie, c'est lui d'ailleurs qui baptisera Constantin en 337, sur son lit de mort. Eusèbe de Nicomédie est un véritable arien, et après le concile de Nicée, on verra quoi, avec les débats que ça va créer, parce que là, ça va être... Le concile de Nicée établit le dogme du consubstantiel. Le fils est consubstantiel au père, le père est consubstantiel au fils, homoousios, mousion, hein, ils sont de même substance. Le débat dogmatique est tranché, la vérité est établie, mais les débats jusque pratiquement sous l'empereur Théodose vont être épouvantables. Penser que pour défendre cette vérité, ce simple mot, car ça tient à un mot, de même substance, consubstantiel, homo usios, eh bien pour ce seul mot, cela vaudra quand même 5 exils au grand saint Athanase d'Alexandrie, après le concile de Nicée. Parce que l'empereur Constantin sera manipulé, les évêques se feront la guerre, il y aura des vrais partis, qui se battront. Pensez qu'à un moment donné, à Antioche, il y aura en même temps jusqu'à cinq patriarches. Il y aura 5 patriarches d'Antioche, fruit de ces différentes factions. Donc, je vous dis, on arrivera petit à petit à régler toutes les questions, parce que cette question en entraîne une autre. Une fois qu'on a défini le statut des rapports du Père et du Fils, quid du Saint-Esprit ? Quels sont ses rapports avec le Père et avec le Fils ? Et ça, à partir de cette hérésie arienne qui considère le Christ comme une créature, on va embrayer sur le Saint-Esprit avec une grande hérésie qui est due encore à un prêtre, c'est toujours les prêtres qui déclenchent les hérésies, qui s'appelle le Nôme, hein, Eunôme, l'hérésie de Nôme, et il y aura évidemment le très bon texte de saint Basile le Grand et de saint Grégoire de Nice contre Nôme. Et ça sera l'objet du deuxième concile écuménique de 381 qui aura lieu sous Théodose. Mais là, à partir de Théodose, on va entrer dans une nouvelle phase, et c'est pour ça que je n'en parle pas ce soir. On va vraiment établir à partir de Théodose de nouveaux une sorte de règle du jeu, des rapports entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Mais entendez bien que si on établit une règle du jeu, on n'établit pas une règle définitive. Les rapports entre spirituel et temporel, mais ça je le développerai le mois prochain avec Théodose et avec Clovis, parce qu'on aura le même problème, on aura surtout une illustration magnifique avec Clovis, en particulier au moment du concile d'Orléans de 511. Hein. Mais les rapports spirituels temporels, c'est une tension permanente, c'est un équilibre à chercher. Vous voyez, on voit bien avec Constantin, pourquoi a-t-il fait le concile de Nicée ? Parce qu'il a vu que tous les évêques, en tout cas dans l'Orient, parce qu'en Occident, l'Occident a ignoré l'arianisme, enfin, jusqu'à un certain point. Mais au début, l'arianisme naissant ne naît qu'en Orient. L'Occident, on se bat sur la question du donatisme, mais qui est une question disciplinaire, qui n'est pas une question théologique. Bon, mais il veut absolument, puisqu'il veut que cette Église triomphe, il veut que le christianisme triomphe, il veut que les évêques s'entendent entre eux. Donc c'est lui qui prend l'initiative de convoquer un concile en disant, attends, là, vous êtes là, mettez-vous d'accord. Ça durera ce que ça durera, mais mettez-vous d'accord. C'est un concile très important. Il y avait trois évêques occidentaux. Le pape avait envoyé deux prêtres, peu importe. Je vous le dirai. Et il y avait quand même 318 évêques à Nicée. C'est absolument considérable. Mais ça a laissé des traces. Alors, évidemment, la majorité s'est mise d'accord sur un certain nombre d'éléments, et en particulier, évidemment, sur la question du credo. Et c'est là où on va écrire la première partie. Le grand credo qu'on chante le dimanche, on appelle le credo de Nicée-Constantinople, parce qu'il a été complété à Constantinople. Je vous dirai un mot sur la composition du credo le mois prochain, hein, mais le texte du credo que nous chantons le dimanche, 90% de son texte, a été élaboré à Nicée. Ça a été la grande affaire de l'empereur Constantin, et c'est ce qui fait d'ailleurs que les églises orientales aujourd'hui, encore aujourd'hui, catholiques d'ailleurs ou orthodoxes, d'Andrique byzantin, on appelle Constantin, Saint Constantin et Saint Hélène, égal aux apôtres. Parce qu'il a, pour eux, donné une visibilité, une structure, une existence à l'Église. Et il a assis l'évêque de Rome sur le siège de Rome, et lui a donné déjà toute la... Je n'aime pas le mot, mais vous comprendrez ce que je veux dire, j'en trouve pas d'autre, je suis peut-être sans doute un peu fatigué, toute la pompe, toute la solennité qui convenait à l'exercice de cette fonction. Parce que le concile de Nicée, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous en parler parce qu'il se fait tard, mais a eu un rôle très important dans l'établissement du rôle du siège de Rome comme premier siège épiscopal de la chrétienté. Et ceci n'a pas été mis en doute à Nicée, a été même confirmé. On a établi les droits des autres grands patriarcats. C'est quoi les patriarcats? C'est, dans l'ordre, c'est Alexandrie, Antioche. Évidemment, il n'y a pas Constantinople, Constantinople n'existant pas en 325. Ces patriarcats, le mot patriarcat apparaîtra un peu plus tard, plutôt sous Théodose, il n'apparaît pas encore sous Constantin, c'est l'évêque des capitales, des grandes parties de l'Empire qui s'appelaient des diocèses. Un diocèse, à l'origine, c'est une province civile de l'Empire romain, et ça n'est pas un diocèse aujourd'hui, comme l'archidiocèse de Toulouse, ou le diocèse d'Albi, ou le diocèse de Tarbes, ou le diocèse d'Auch à côté. Non, pas du tout. Un diocèse, c'est... Et à l'intérieur du diocèse, vous avez des provinces ecclésiastiques. Donc à la tête, vous avez, pour le diocèse d'Asie mineure, vous avez Antioche, qui se trouve donc en Syrie, qui aujourd'hui n'est plus en Syrie, aujourd'hui Antakya est en Turquie. Vous avez Alexandrie et vous avez Rome. Et bien sûr Jérusalem, mais qui n'a aucune... Puisque je vous ai rappelé que Jérusalem avait été détruit en 66-70, détruit le temple, on rétablira tardivement un évêque à Jérusalem. Il est considéré comme l'église mère de toutes les églises, mais ceci étant dit, il n'a jamais eu de rôle hiérarchique important dans la structure de l'église telle qu'elle va se structurer à partir du concile de Nicée. Parce que c'est à partir du concile de Nicée que réellement l'église commence à s'organiser en société autour du pouvoir épiscopal. Voilà. J'ai l'impression de ne pas avoir trop dit, de ne pas avoir assez dit. J'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais le temps a passé, et de crainte de vous lasser, je vais m'arrêter en vous remerciant en tout cas pour votre attention. Parce que s'il y a une chose qui ne trompe pas, quand on est ici et qu'on a des personnes, un groupe en face de soi, on sait si les gens dorment, on sait si les gens écoutent, on sait même si on les rase, on sait même si on les intéresse un peu. Je pense vous avoir intéressé un peu. Et bien, pour cela, je vous en remercie. Alors, une dernière chose, avant que je m'arrête, ça va prendre 3 minutes. Je ne sais pas si vous connaissez cette revue assez récente qui s'appelle Le Figaro Histoire. Le Figaro Histoire est absolument remarquable Et il y a eu, au mois de juin-juillet 2013, bon, on peut récupérer, il y a eu un numéro extraordinaire qui, dont le titre est très clair, 313, comment le monde est devenu chrétien, de la grande persécution au triomphe de l'Empire chrétien, Constantin cet inconnu, la révolution de l'édit de Milan. Alors en plus, ça ne vaut pas cher du tout, c'est une revue qui vaut 7,50 €. Je vous assure, et qui est vraiment, si vous pouvez acquérir ce numéro, vous pouvez le commander, maintenant par Internet, vous pouvez le commander. Hein, le Figaro Histoire, c'est le numéro de numéro 8 de juin-juillet 2013. Et je vous signale que celui qui vient de paraître, là, ces jours-ci, que je ne saurais pas vous recommander, mais je vous en parlerai le mois prochain, parce qu'il est consacré justement à la christianisation de la Gaule et au baptême de Clovis. Et sachez dans la foulée qu'il y a à partir du 26 de ce mois, pour ceux qui ont l'occasion d'aller à Paris, prenez le temps d'aller au musée de Cluny, il y aura une exposition sur les Mérovingiens, avec le fond des collections du Louvre, des collections bien sûr de Saint-Germain-en-Laye, mais aussi de musées allemands et de la Bibliothèque Vaticane, 350 pièces du plus haut intérêt, et avec un catalogue qui, évidemment, comme d'habitude, fera le point sur l'état de la recherche. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, la France est en train de nier ses racines chrétiennes, et le musée de Cluny organise, je trouve ça cocasse et merveilleux à la fois, c'est le Saint-Esprit avec l'humour. J'ai toujours pensé que le Saint-Esprit avait l'humour, en tout cas plus que nous, mais alors que nous, on est en train de tout détruire, eh bien, dans un grand musée national prestigieux qu'est le musée de Cluny à Paris, eh bien, on organise une magnifique exposition sur la christianisation de la France autour du baptême de Clovis. Je vous remercie.
Merci Francis pour cette belle conférence. Et puis merci aussi parce que je n'aurais pas entendu les hérésies ce soir.
On n'aurait plus que ça. Vous m'auriez fait brûler.
Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que parmi vous, il y en a qui voudraient poser des questions ?
Vous savez qu'il y a une chose essentielle à savoir, c'est que dans les questions, seule la réponse pourrait être indiscrète.